sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue dans I Feel Good. 30 minutes pour profiter des ondes positives d'un invité, 30 minutes pour aller à la rencontre d'un homme, cette fois-ci encore, qui, par son engagement perso, professionnel, bénévole, apporte un peu beaucoup de mieux vivre, de bien-être autour de lui et de nous. Aujourd'hui, le plaisir d'accueillir un mec qui a fait un peu de philo, qui a fait un peu de science et qui aujourd'hui travaille dans un projet de coopérative autour du développement durable. Il nous en dira beaucoup plus dans quelques instants. Le plaisir d'accueillir Emmanuel Paul.
So good, so good, I got a year.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Christophe.
Plein de monde autour de la table. Derrière la régie, c'est Jean-Luc. Un métis, c'est ça, qui est stagiaire en troisième du collège Saint-Léon à Nancy. Et puis pour ceux qui regardent à la vidéo, un grand barbu qui s'appelle Ghislain. Voilà. Puis on vous en dira plus la prochaine fois. Parce qu'il ne va pas parler pour dire bonjour lui. Hein. Il veut dire bonjour.
Bonjour à tous.
Ah, vous en savez un peu plus maintenant à la voix, vous reconnaissez la voix rocailleuse. Un homme de radio, je vous dis. Allez, on y va. Emmanuel, bienvenue, merci d'être, de poser pendant 30 minutes tes valises à RCN. Deux mots tout de suite de Kepos. Qu'est-ce que c'est que Kepos ? À quoi ça sert ? Et à quel besoin de société tu essayes, tu envisages, tu as envie de répondre ?
Alors Kepos, ça signifie jardin en grec. Et c'est une coopérative, ce qu'on appelle une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui s'est donnée pour mission d'œuvrer, de contribuer à la transition écologique et solidaire du territoire. On le fait de plusieurs manières, dont on pourra parler tout à l'heure, mais notre engagement, c'est ça, c'est essayer de transformer le territoire, ses acteurs et la vie de ses citoyens vers la durabilité et la sobriété.
Bon, alors, on va essayer de casser un peu tout ça, parce que là, c'est des grands mots, c'est super à la mode, c'est super tendance, c'est alors il y en a qui vont dire c'est bobo, c'est... Attends, concrètement, c'est quoi ? Concrètement, vous faites quoi avec qui ?
Alors concrètement, on fait deux choses. La première, c'est que on aide à l'émergence, donc on accompagne la création d'entreprises et le développement d'entreprises engagées sur ces questions de transition. Donc grosso modo, on a réuni une trentaine de jeunes entreprises du territoire.
Et ça, c'est vrai. Vous avez réuni une trentaine d'entreprises à Vendeuvre.
Oui, à Vendeuvre et même sur l'ensemble de la métropole, donc des boîtes qui sont sur le bio, sur les circuits courts, sur le réemploi, les mobilités douces, les énergies renouvelables.
Mais c'est plutôt des petites boîtes.
Oui, quand on dit TPE, c'est très petites entreprises, donc c'est des boîtes qui ont moins de 10 salariés, moins de 5 ans d'existence.
Donc on n'est pas sur des process industriels, on n'est pas sur des grandes industries, des grandes entreprises, on est sur des... plutôt petites initiatives locales.
Oui, c'est ça, de l'entrepreneuriat de proximité. Ouais. Et ce qu'on veut faire, c'est que ces gens-là qu'on a réunis ont des engagements forts, mais c'est un peu des marginaux. Et donc le but de notre activité, c'est de les faire se développer.
Et toi, t'es le chef de la tribu des marginaux, alors.
Voilà, c'est ça. Et on essaye de les faire rentrer pour qu'ils se développent et que par le jeu de leurs relations avec leurs clients, leurs fournisseurs, etc., ils aient un impact de plus en plus fort sur le territoire. Je vais prendre un exemple. On a créé cette boîte, cette activité il y a 5 ans avec... notamment quelqu'un qui s'appelle Franck Magot, qui a créé un service traiteur qui fait que du bio et du local. Bon, bah lui, il y a 5 ans, il était seul dans son camion à Brabois à essayer de vendre des burgers. Il merdouillait sous la pluie au mois de novembre. Et là, le but, c'était d'arriver à ce qui se développe. Aujourd'hui, il a 10 salariés, il a investi, il a gagné les marchés publics du département, de la région, de la métropole, de l'université. Et à tous ces gens-là, il fait manger du bio, du local, sans emballage, livré à vélo. Donc ça... pour la transformation du territoire, c'est exactement ce qu'on veut essayer de reproduire avec toutes les boîtes qu'on a réunies autour de nous.
J'avoue que on s'est rencontrés il y a 5-6 ans, je crois. Voilà. Je me suis dit, oh là 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 là, où il va, où il va. Quand tu t'es lancé, comment tu t'es lancé et est-ce que l'accueil a été un petit peu, des fois... dur ou il a fallu beaucoup d'énergie. Comment tu t'es lancé dans ce projet qui aujourd'hui, je suis super content de t'accueillir aujourd'hui parce que ton projet il avance, il marche, voilà, il est modeste, mais il réunit des gens, ça avance tranquillement, paisiblement, mais assurément.
Alors moi je me suis lancé un peu malgré moi hein, parce qu'il y a 5 ans et demi je suis retrouvé au chômage suite à une fin de contrat qui n'était pas tellement prévue. Là, je me suis retrouvé un peu sur le carreau. Je venais d'avoir mon quatrième enfant. Ma femme était en congé parental. Donc, en termes humains, c'était un peu chaud. Et puis, en même temps, j'ai été de plus en plus sensibilisé aux questions écologiques, de changement climatique, etc. Et je me disais, ben merde, j'ai des enfants. Qu'est-ce que je leur laisse pour la suite, quoi ? Qu'est-ce que je transmets ? Et à ce moment-là, j'avais un peu de temps devant moi, étant au chômage, pas très bien indemnisé, mais j'avais quand même un peu de temps. Donc, je suis parti sur l'idée de créer une entreprise sur ces enjeux-là. Et ce que je savais faire, moi, c'était d'accompagner les dirigeants, quoi, faire du conseil, de la formation. Donc, j'ai pris une initiative où je réunissais des gens en me disant, l'écologie, il faut qu'on l'affronte, il faut qu'on transforme, mais collectivement. C'est-à-dire, c'est pas des choses qu'on fait seul dans son coin. On a besoin de réunir des collectifs pour être plus performant et porter des ambitions plus fortes. Voilà, donc c'est vraiment un projet de nature coopérative, donc c'est pas associatif, c'est pas privé, mais c'est coopératif, c'est-à-dire que ça mise sur la capacité des gens à interagir entre eux pour des objectifs communs.
Alors ça veut dire quoi justement, coopératif ?
Alors la coopération, c'est assez bien défini en fait, hein. C'est un modèle de gestion d'entreprise, de gouvernance d'entreprise, où un homme égale une voix. Donc tous les associés dans l'entreprise, tous les actionnaires finalement ont le même droit de vote, même si ça peut être pondéré par collège. Et donc nous, dans notre cycle, on a défini un intérêt collectif qui n'est pas tout à fait l'intérêt général, mais qui n'est plus non plus l'intérêt privé. Et donc cet intérêt collectif qu'on a défini, c'est de contribuer à la transition écologique du territoire. Et c'est pour ça qu'on déploie tout un ensemble d'initiatives pour transformer les entreprises locales, former les entreprises existantes, mener des projets d'aménagement durable, par exemple, pour les collectivités locales, etc.
Et donc concrètement, ça veut dire une voix, une homme, mais ça veut dire derrière une entreprise, il y a un capital financier, il y a un investisseur, il y a des investisseurs, donc ça veut dire...
Oui, alors effectivement, c'est plus facile de créer des entreprises quand on a un peu d'argent. Alors moi, je n'en avais pas beaucoup, mais on a fait appel à des copains, à de la famille, tous ces gens-là, au fur et à mesure, nous ont soutenus. Aujourd'hui, on a à peu près 80 associés pour un capital de l'ordre de 110 000 euros à l'heure actuelle. Et on est vraiment une initiative partie du terrain qui a été cherchée après les pouvoirs publics dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'on est vraiment des outsiders, quoi. On ne répond pas à une commande politique. Par contre, au fil du projet, on a été voir la métropole, le département, la région, l'État. Et puis petit à petit, on a réussi à les convaincre pour qu'ils nous soutiennent. Et c'est ainsi qu'on a 3 collectivités, le département, la métropole et la ville de Vendeuve, sur laquelle on est installé, qui ont pris départ à notre capital. Ce qui est assez rare quand même localement d'arriver à ce que des collectivités, des acteurs publics prennent des parts dans des entreprises privées.
Donc aujourd'hui la coopérative, elle vit de quoi et comment ?
Alors notre modèle, c'est à 75% de la prestation de services. Donc on vend de la formation, on vend du conseil, on vend de l'ingénierie, on vend des parcours de formation. Et puis on a 25% qui sont des subventions publiques de l'État, de la région, de la métropole parfois ou du département. Mais on est vraiment sur un modèle, on est dans l'économie marchande hein, quelque part. Et on est finalement, on va dire, un cabinet de conseil amélioré, qui est coopératif et qui est axé sur ces questions de transition écologique et solidaire.
Donc vous faites de la formation à qui ?
Alors on fait de la formation à des salariés, des décideurs, des cadres, des élus. Et puis on a lancé cet été un premier parcours de formation pour des demandeurs d'emploi. Donc une dizaine de demandeurs d'emploi vraiment très éloignés de l'emploi en logique de réinsertion pour les former aux nouveaux métiers de la transition écologique. Les énergies renouvelables, l'éco-construction, l'agroécologie, etc. Donc voilà, on essaie de décliner nos actions de formation dans plusieurs directions parce qu'on pense qu'il est essentiel que, vu les enjeux écologiques auxquels on fait face, il faut que tout le monde change ses pratiques. Il faut que la décision change, que les critères de la bonne décision changent, que les pratiques professionnelles changent et que les pratiques individuelles aussi se transforment.
Alors un capital à 110 000 euros, c'est pas énorme, mais c'est déjà un vrai budget, enfin
oui,
un investissement,
fait, oui.
Voilà. C'est 80 actionnaires, c'est ça que
oui,
tu disais,
à peu près,
voilà.
Oui, oui.
80 actionnaires, c'est un plan de formation, c'est des études aussi ?
Oui, on fait du conseil et de l'étude.
Alors par exemple, on y va, faisons un peu de promo et de pub.
Non, mais vas-y. On fait de l'évaluation environnementale pour des entreprises de type bilan carbone, etc. Et puis, on est aussi expert auprès de la Caisse des dépôts. Donc, la Caisse des dépôts, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la banque de l'État, en fait. Hein. On est expert auprès de la Caisse des dépôts pour conseiller des projets liés à la transition alimentaire. C'est-à-dire comment, dans les territoires, et ça, on le fait partout en France, on transforme les pratiques des agriculteurs et des filières agroalimentaires pour mettre en place des filières durables, en circuit court, en bio, etc. etc.
Aujourd'hui, vous avez vous êtes accueilli, vous avez un site à Vendeuvre, qui est extraordinaire. Tu en dis deux mots, nous présentes un tout petit peu.
Oui, oui, alors justement.
Les locaux et l'environnement.
Alors, on est installé au cœur de l'écoquartier Bianca Maria, qui est un écoquartier assez récent, hein, pas très loin des Maïs à Vendeuvre. Et en fait, on cherchait un lieu pour accueillir les professionnels ou le grand public ou les scolaires qu'on voulait sensibiliser et former à l'écologie. Et on a cheminé avec la ville de Vendeuvre sur la mise à disposition d'un terrain de 2000 m².
Extraordinaire.
Alors qu'on a aménagé en jardin partagé et en verger participatif, sur lequel on a mis une yourte de presque 40 m², qui est notre lieu d'accueil pour ces groupes de professionnels qu'on veut former. Donc là, on est en train de finir l'électricité de la yourte et elle sera utilisable à partir du 1er mars. Et donc l'idée, c'était de dire à nos clients, mais tout type de public, hein, venez vous former à l'écologie, mais vous ne faites pas dans une salle avec des néons au plafond et du polystyrène et des murs avec de la toile de verre. On fait ça dans un environnement avec des matériaux nobles, un peu à l'écart de la ville, donc dans un jardin paysager. Et on vous fait envisager vos activités professionnelles ou associatives ou citoyennes dans un autre cadre pour vous poser la question de c'est quoi la raison d'être de vos boîtes dans le contexte de la transition écologique.
Donc tu crées quand même un cocon et un environnement qui permet de réfléchir à la chose, quoi.
Voilà.
En plein milieu urbain, enfin pardon.
Ah oui, parce que là on est dans un endroit, alors c'est une sorte d'impasse un peu à l'écart, mais dans un environnement très paysager et très agréable, sans voiture. Et c'est une espèce d'oasis urbaine finalement pour envisager les choses autrement.
C'est Kepos, ta troisième date importante dans ta vie.
C'est ça.
Elle était, tu l'as positionné à 2018.
2017,
ouais. 17, ouais. Tu nous disais que c'était le fruit d'une réflexion suite à une période de chômage que tu as montée. Après 5-6 ans de création et de vie, quel regard tu poses sur ton intuition d'il y a 5 ans, son évolution, sur quel regard critique tu portes sur sa conception.
Alors moi je pense que l'intuition était très bonne, mais la réalisation est quand même très exigeante, parce que là c'est des risques à prendre, hein, quand même.
C'était énorme. Je le disais, j'ai vu il y a 5 ans, je me suis dit, mais il va où l'Emmanuel quand même, quoi. Voilà, c'était pas
c'est des risques à prendre, c'est aussi des risques qui impactent mes proches, hein, quelque part, parce que moi j'ai 45 ans, mais j'ai un salaire de cadre débutant, quoi. Donc c'est pas aussi évident à porter au quotidien, et j'espère que ce sera qu'au temporaire. Et puis ceci dit, ça crée quand même beaucoup de sens autour de moi, dans un cadre professionnel. Ça crée tout un collectif d'acteurs, depuis les collectivités jusqu'aux petits entrepreneurs de base, en passant par des grosses boîtes plus importantes qui nous soutiennent. Et finalement, c'est ça, en fait, sur cette question de transition écologique, il faut créer du lien. Il faut créer des collectifs, il faut créer de la coopération, et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Maintenant, on n'est pas encore rendu parce qu'on n'est pas encore rentable, et nous, on est une entreprise, donc il faut absolument qu'on arrive à gagner de l'argent. Je pense qu'on n'est pas très loin du but, mais il y a encore du boulot. Et puis, moi, je n'ai pas créé ça avec ceux avec qui j'ai créé ça, juste pour créer mon propre emploi. Ce qui m'intéresse, c'est de transformer le territoire. Et dans ce cadre-là, il faut qu'on ait des ambitions locales et pourquoi pas nationales par la suite.
On s'accorde une petite pause après tout ce que tu nous as dit. C'est Leonard Cohen, c'est ton choix musical. On se retrouve un petit peu après pour voir d'où ça vient, ce projet de vie.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished.
I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
The graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Wow! I feel good. I feel good sur RCN. Christophe Chevardet.
Voisin de droite qui veut de gauche qui veut pas poser de questions disait quand même pendant la pause musicale c'est gonflé je crois c'est ça le terme que t'as employé c'est un peu gonflé ton projet Emmanuel
oui bah, c'était des choix pas forcément qui se prennent au fur et à mesure mais qui sont effectivement un peu difficiles à prendre mais en même temps c'est pourquoi j'ai voulu faire ça c'est que bon, il y a une dizaine d'années j'ai commencé à m'intéresser aux enjeux énergie climat et quand je lisais des rapports le GIEC etc ou des journalistes, ou quoi. Il suffit de lire Le Monde, hein. Il y a une chronique Planète qui est bien faite. Je voyais ces questions qui pointaient et qui devenaient de plus en plus importantes. Et quand j'ai vraiment creusé, je me suis rendu compte que oui, en fait, il faut que ces questions-là soient tout en haut de l'agenda politique et entrepreneurial, parce que derrière, bah, c'est notre existence en tant que civilisation qui se pose. Alors moi, je vais pas répondre à ça, quoi. J'ai pas des solutions. Mais par contre, je voulais expérimenter quelque chose pour essayer de contribuer à avancer sur ces questions-là.
Mais ça veut dire que dans ta jeunesse, tu te voyais éleveur de brebis sur le plateau du Larzac ou pas du tout ça.
Moi, j'ai une formation. Je disais, j'ai fait un peu de lettres, un peu de philo. J'ai fait une cagne à la fin des années 90 à Paris, et ce qui m'intéressait, c'était plutôt la réflexion intellectuelle, philosophique, les lettres, l'histoire, le cinéma. Donc on va dire que sur ce projet entrepreneurial, j'ai essayé de reprendre un peu tout cet héritage littéraire que j'avais pour essayer de proposer une action qui ait du sens.
Donc toi, tu viens pas du tout de ce parcours de scientifique ou de science de l'environnement.
Non, je suis pas du tout un militant non plus, tu vois. J'ai jamais milité à Greenpeace ou des choses comme ça. C'est pas mon univers.
Alors tu me prends de court là justement. Mais effectivement, enfin voilà, t'as jamais milité associativement fort ou.
J'ai fait partie d'associations, mais jamais de. Je ne suis pas du tout un activiste environnemental. Par contre, mon métier précédemment, c'était de produire des études sur le développement territorial, le développement local, le développement économique. Et c'est en m'intéressant à tout ça que j'ai vu poindre les enjeux énergie-climat. Et je me suis dit, ah bah ça, c'est un truc qui vient de tout bouleverser, quoi. Donc c'est comme ça que j'y suis arrivé, finalement. Donc je me suis formé sur le tard, sur ces questions-là.
Alors, juste une petite parenthèse, mais on va revenir à ses racines, justement, de ton engagement. Mais la crise énergétique qu'on traverse aujourd'hui, ça, du coup, ça vous donne plein pot une légitimité super.
Enfin, bien sûr.
En termes de com, c'est formidable.
Bien sûr, parce que nous, au début, on s'est un peu adressé à nos partenaires qui étaient dans la zone, quoi. On a travaillé avec des entreprises de l'ESS, des associations. Et
alors,
puis maintenant, économie sociale et solidaire. Maintenant, on voit des entreprises industrielles qui viennent vers nous, y compris des grands groupes. Donc on se dit, bah là, on a des choses intéressantes à proposer.
Et là, tu le sens vraiment depuis la guerre en Ukraine, grosso
modo. Oui, depuis cet été. Je pense que l'été qu'on a eu, les canicules, les incendies, et puis l'augmentation des prix de l'énergie, ça a vraiment changé la donne pour les entreprises.
Factuellement, tu le sens.
Ah oui, clairement.
Ouais, depuis cet été.
Ah oui, tout à fait.
Je reviens à ce chemin qui t'y a conduit. Donc tu étais dans un bureau d'études, c'est ça, avant? Alors,
oui, j'étais en bureau d'études. J'ai travaillé en agence d'urbanisme aussi. C'est des structures équivalentes à ce qui s'appelle ici à Nancy Scalen. Donc c'est des structures qui font des études sur le développement territorial.
D'accord. Donc de là tu as senti, tu as entendu, tu as détecté qu'il y avait quelque chose qui se jouait autour
de cette transition.
Oui,
tout à fait.
Le chômage arrive, c'est l'occasion de, plutôt que de baisser les bras...
D'essayer de proposer quelque chose, tout à fait.
Et tu lances Kepos. Je reviens à cette jeunesse, alors ta jeunesse, qui n'était pas du tout dans ce domaine-là, jamais?
Non, pas tellement en fait, hein. Bon, moi, j'ai eu une éducation assez littéraire, assez sur les humanités, etc. Et puis, j'ai fini mes études en école de commerce. Voilà, je m'apprêtais à travailler dans le secteur privé classique. Mais en même temps, j'y étais pas tout à fait prêt, parce que je voyais qu'entre mes goûts littéraires ou philosophiques et puis ce que proposait le secteur privé, il y avait parfois une inadéquation. Et donc, ce pourquoi je suis très heureux aujourd'hui, c'est que j'ai à la fois du sens... et puis de l'action opérationnelle, entrepreneuriale, et ça, je trouve ça vraiment très intéressant.
Parce que le goût de l'entreprise, tu l'as toujours un petit peu eu quand même, malgré le parcours en humanité, comme tu dis.
Bah oui, mais effectivement, j'ai créé une entreprise à la fin de mes études, un bureau d'études qui n'a pas très bien marché. Là, pour le coup, je ne gagnais vraiment pas beaucoup d'argent. J'ai quand même fait ça pendant 5 ans, mais ça m'a appris un peu les rudiments du métier. Et puis, oui, je dois avoir un tempérament qui aime la prise d'initiative, même si je suis quelqu'un quand même d'assez calme et parfois un peu réservé. Mais j'aime bien, j'ai beaucoup d'idées, quoi. Voilà, donc j'aime avoir des idées. Et là, j'ai essayé de les matérialiser, c'est ça.
Donc, un univers qui fait que tu es, dans les années 90, plutôt dans le littéraire, plutôt un petit peu dans les coups quand même.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Ouais.
Ça, c'était les années 80, fin des années 90.
C'est ça.
Paris,
ouais.
Tu bouges un peu dans ta jeunesse.
Oui, en Bourgogne, en Allemagne, etc. Et puis, en terminant mes études, j'ai rencontré mon épouse.
Ça, c'était la première date importante dans ta vie, 96, les études et l'hypocarène, quoi. Voilà. Et puis, tu m'attaques la deuxième date tout de suite, on y va.
Voilà, oui, j'ai rencontré mon épouse en 2008, qui était l'ancienne. Moi, je ne connaissais pas du tout Nancy.
Ah, c'est l'amour! C'est l'amour qui t'a fait venir sur ce bon territoire.
Nos premières années, on les a vécues en Auvergne, à Clermont-Ferrand, et puis on s'est rapprochés de la Lorraine en 2015. Et moi, je ne connaissais pas du tout la Lorraine, mais j'ai trouvé un territoire vraiment très accueillant. Et puis, Clermont-Ferrand, où j'étais avant, il y avait une très forte identité. Mais un fort enclavement des mentalités, alors que je trouve que Nancy est beaucoup plus ouvert sur le monde.
Ah bon ?
Ah oui, oui, oui. Mais une identité plus faible. Je trouve que les Lorrains sont peu fiers d'être Lorrains. Il y a une faible revendication, quoi, finalement. Je trouve que c'est plus... ça manque un peu de relief.
Pourquoi ? Alors, où est-ce qu'on pourrait aller chercher du relief ? Tiens, allez, on va faire un petit diagnostic sur l'identité du territoire, c'est intéressant, ça.
être dans l'affirmation des valeurs, de son histoire, de
ce qu'on est. Quelles valeurs on peut avoir en Lorraine ?
Je sais pas, ce sera à vous de le déterminer. Hein, mais disons qu'il y a une fierté à Clermont-Ferrand que j'ai pas retrouvée ici, par exemple. Mmh. On dévie un peu.
Voilà une bonne étude à mener sur l'identité des habitants sur un territoire pour la Lorraine et pour le Grand Nancy.
Mais l'identité, quoi, la fierté est un facteur de développement parce qu'après on veut affirmer qui on est.
Mais c'est vachement dangereux aussi parce que ça peut être aussi vachement...
Je pense que concernant la Lorraine, là, il n'y a pas de risque à court terme.
Emmanuel, donc alors oui, alors on revient quand même sur cette deuxième date importante là, parce que voilà, donc de l'amour né à un viaduc entre l'Auvergne, donc pour atterrir sur Nancy. Quatre enfants, tu évoquais.
Oui, j'ai quatre enfants, donc c'est du boulot. Hein,
Comment on mène tout ça de front entre des projets un peu fous, un peu utopiques, un peu risqués quand même. Et qu'on a 4 enfants,
c'est pas évident, on tâtonne, faut essayer de construire ça.
Il y a un peu le stress quand même du créateur d'entreprise qui
est
du père de famille, se rend compte ça de temps en temps. Comment tu appréhendes ça? Le but d'I Feel Good, c'est de donner des clés aux auditeurs. Alors voilà, quelles sont les clés d'Emmanuel?
Je pense pour essayer de trouver un équilibre, ce qui est important, c'est le dialogue, quoi. Le dialogue avec ses enfants, dans le couple... voilà, moi j'essaye de parler pas mal de tout ça. Après, dans l'éducation des enfants, on se rend compte qu'on a plein de limites et qu'on rencontre plein de difficultés. Là, tu vois, moi je commence à avoir des ados à la maison et j'avoue que je manque un peu d'outils de bonnes pratiques. Donc j'écouterai tes émissions futures au cas où il y a d'autres parents qui aient des choses à partager. Mais voilà, je tâtonne et en même temps, voilà, j'essaye de ne pas avoir des horaires délirants non plus de boulot. Je travaille quasiment jamais le week-end. Voilà, donc il y a quand même un équilibre qui se trouve là-dedans.
Et le chef d'entreprise, alors où est-ce qu'il va chercher les conseils? Chez le banquier? Chez
les partenaires, dans mon propre réseau, quoi. Hein, donc moi, je connais des entrepreneurs plus aguerris que moi avec qui je discute régulièrement. Et puis, une société coopérative, on va dire que ce n'est pas une entreprise classique, c'est-à-dire que c'est vraiment un collectif de personnes qui ont voulu monter le projet. Donc, on est beaucoup dans l'échange, finalement, avec toutes ces personnes-là. Et ça permet de partager la prise de décision. Même si c'est moi, in fine, qui prends la décision, elle est quand même discutée avant. Donc moi, j'assume complètement le leadership et le fait de donner le tempo, etc. Mais les décisions sont réfléchies à plusieurs et c'est ça qui est rassurant.
Alors, juste pour situer la coopérative et l'emploi des salariés.
Oui, on est 8.
Vous êtes 8, donc il faut trouver 8 salaires, il faut sortir 8 salaires.
Oui, alors ça, c'est 5 ETP. Mmh. Et effectivement, moi, je n'ai pas trop les fins de mois parce que bon, je reçois ma paye, mais il faut aussi payer, sortir celle des autres.
Donc, il y a 5 ETP à sortir. Comment tu... projette un peu l'avenir de Kepos, comment tu
développement. Pense que sur 2023, il faut vraiment qu'on arrive à trouver l'équilibre financier. Je pense qu'on n'en est pas loin. Moi, je sens qu'il y a des très grosses opportunités sur les métiers de la formation. Pourquoi? Parce que les cadres en entreprise, les élus ou même les professionnels n'ont pas les outils, n'ont pas les clés de lecture pour intégrer les enjeux énergie climat dans leurs pratiques et dans leurs décisions. Et donc là, il y a vraiment énormément de travail à faire en proximité, parce qu'il faut que tout le monde soit formé, finalement. Le statu quo n'est pas possible. Le business as usual, la stratégie du « on fait comme d'habitude », c'est la stratégie perdante en matière d'écologie. Donc il faut vraiment tout transformer. Et là, je pense qu'il y a des marchés, entre guillemets, on va dire des opportunités qui sont vraiment très importantes. Et nous, on les valorise de manière collective. C'est-à-dire qu'on est une coopérative, donc on propose à l'ensemble de nos entreprises membres, la trentaine de boîtes dont je te parlais tout à l'heure, de faire de la formation à travers nous. Et on crée comme ça un centre de formation de la transition écologique et solidaire qui soit pluridisciplinaire. On puisse parler de management, de politique publique, d'énergie, de biodiversité, de sol, d'alimentation, de sobriété numérique, etc.
Donc ça veut dire tous ces champs d'action que tu évoques là, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont dans votre collectif.
C'est ça, qui peuvent intervenir sur des formations liées à ça.
Ou de l'action très concrète.
Ah bah bien sûr, après ils ont leur activité.
Tout à l'heure un traiteur.
Ils ont chacune leur métier. Il y a des bureaux d'études, il y a des commerçants, il y a des entreprises informatiques, il y a des artisans, des petites entreprises industrielles. Donc c'est vraiment des commerçants, des restaurateurs. Donc voilà, l'idée c'est que tous ces gens-là mettent sur le territoire des solutions qui n'existent pas.
Une adresse pour vous situer, pour vous contacter à téléphone?
Alors vous pouvez me contacter à contact@kepos.fr, K-E-P-O-S. On a un site internet qu'on est en train de refaire qui s'appelle kepos.fr. Et puis vous trouverez sur le site mon numéro également, pour m'appeler sans problème.
Merci Emmanuel d'avoir pris les 30 minutes nécessaires pour prendre le temps d'un dialogue énergétique dynamique.
Eh bien merci, à bientôt.